anscheiden, o elender Graus. Lève-toi, lève-toi, masse malade, crie le mal dans l'univers. Lève-toi, lève-toi, masse malade, danse rente, aie confiance. Wenn ich was schaffe, läuft alles krumm. Wenn ich was wage, mach ich's ganz dumm. Will ich schlafen, schlaf ich nicht ein. Oh, ist das Leben doch eine Pein.
Les reines prochaines dans Onde Femme, Radio Zone et Romu Ménage aujourd'hui, 17h-18h30, l'occasion d'aborder des questions qui concernent les femmes et aujourd'hui une question importante, la violence conjugale. Ceci dans le cadre d'une campagne nationale qui a été lancée hier 6 mai et qui se prolongera jusqu'au 6 juillet, lancée par la conférence des délégués à l'égalité et bien sûr relayée dans chaque canton. Et bien sûr, le bureau de l'égalité entre hommes et femmes à Genève organise toute une série de choses concernant cette campagne, mais aujourd'hui, avec en direct Lucienne Gillot et Ivana Lambersi, l'occasion de creuser certaines des questions qui ont trait à la violence conjugale. Tout à l'heure, on avait abordé ce que Ivana, tu nous présentais comme un mythe quasiment, ce que d'autres appellent idée reçue sur la violence conjugale, entre autres celle de dire « mais elle a qu'à partir si elle se fait taper ». Il y en a quelques autres sur lesquelles il nous a semblé important de revenir, après avoir reçu des indications plus précises sur les résultats qu'a pu donner l'étude à laquelle a participé Lucienne au niveau national. Alors, est-ce que tu pourrais reprendre justement, Ivana, certains de ces autres mythes ?
Tout à fait. Alors, par rapport à ce qu'a dit Lucienne tout à l'heure, il y a l'idée selon laquelle on visualiserait un homme violent au niveau de l'imaginaire collectif, si on peut dire ça comme ça, comme une grosse brute épaisse, portant moustache et grosses chaussures, si possible très portée sur la bouteille, et provenant de milieux défavorisés, étant plutôt au chômage, ayant des difficultés financières, etc. Donc ça, c'est un mythe qui a la vie dure. Et il est très important de savoir, c'est l'étude de Lucienne qui l'a mise à jour, que finalement, la violence conjugale touche absolument tous les milieux, pas seulement les milieux défavorisés, les couples qui sont dans la dèche, entre guillemets, mais il y a des familles très aisées, qui ne sont pas tout à fait en dehors du besoin, qui vivent des situations extrêmement difficiles. Moi, j'ai eu le témoignage d'une femme qui vit dans une commune dans laquelle on va lancer une action, qui est femme de médecin, pardon, et donc qui n'a aucun, a priori, aucune difficulté financière, qui roule en Mercedes, mais qui n'a absolument aucun argent à elle. Donc son argent de poche est soigneusement distribué au compte-goutte par son mari. Et elle est complètement ligotée à ce niveau-là. Donc elle n'a aucune liberté de faire ce qu'elle veut. Et il la séquestre régulièrement chez elle, dans leur magnifique villa. Donc finalement, c'est une cage dorée, mais rien ne la différencie a priori d'une femme provenant d'un milieu beaucoup plus défavorisé et subissant également des violences de la part de son conjoint. Donc il faut vraiment savoir que ça touche absolument tout le monde, quoi, tous les milieux.
Oui. Est-ce que peut-être on a, en guillemets, fait le portrait robot de la femme victime de violences ou de l'homme qui exerce des violences sur la femme ?
Alors, il n'y a pas de portrait robot, ni de l'homme, ni de la femme, pour la bonne raison que la femme violentée, je dirais, c'est Madame Tout-le-Monde, et l'homme violent, c'est aussi Monsieur Tout-le-Monde. Comme vient de le dire Ivana, ce n'est pas du tout la brute épaisse, mais ça peut être le voisin très gentil qu'on rencontre. D'ailleurs, on a des témoignages comme quoi, dans l'entourage, souvent, ces maris sont estimés, ce sont des hommes sympas, ils rendent volontiers service, etc. Donc, on ne peut pas mettre en évidence un portrait type, puisque la violence touche tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes.
Mais peut-être, effectivement, pas dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui amène peut-être à la violence ? Est-ce qu'il y a des rapports systémiques ? Quand vous avez demandé aux femmes dans votre questionnaire, Lucienne, de vous décrire, par exemple, la distribution des tâches, s'il y a partage des tâches, etc., c'est qu'effectivement, vous vouliez aussi tâter le type de partage, de rapport qu'il y a dans le couple. Est-ce qu'il y a le mari tout-puissant, typiquement machiste, ou est-ce qu'au contraire, on a d'autres rapports qui s'instaurent ? Visiblement, il y a aussi cette hypothèse qu'on retrouve un certain schéma de rapport homme-femme dans les familles où hommes et femmes sont victimes de violences.
Oui, alors un des résultats les plus nets de notre étude, ça a été de montrer, au fond, auparavant, je vais vous dire qu'on a essayé de comparer les familles violentes avec les familles non violentes pour essayer de voir quelles sont les caractéristiques familiales qui provoquent la violence. Et je vous disais, un des résultats les plus nets, ça a été de nous montrer que c'est dans les familles où l'homme est dominant dans les interactions du couple que la violence est présente. Alors qu'est-ce que ça veut dire être dominant dans les interactions du couple ? Eh bien, nous avons observé que là où l'homme prend les décisions seul, là où il a le dernier mot dans une discussion, là où il contrôle sa femme, il contrôle ses faits et gestes, là où il lui impose une sexualité qu'elle ne veut pas, là où il la critique, où il la dévalorise, c'est là qu'il y a de la violence. Donc nous avons bien pu mettre en évidence, au fond, contre le mythe de l'homme qui perd ses nerfs, hein, qui tout d'un coup perd son contrôle et explose, qu'en fait la violence est une stratégie de domination. C'est bien une façon d'imposer à la femme, de lui signifier qui est le maître dans le foyer. Et c'est vraiment une stratégie, c'est pas une perte de contrôle, mais c'est une stratégie pour contrôler la femme.
Ivana, un autre mythe à démonter, après celui de « il y a des gens qui, plus que d'autres, sont violents ».
Alors, il y en a un autre qui est également lié à… En fait, tous ces mythes s'imbriquent les uns dans les autres. Un autre qui a la vie très très dure et qui fait qu'il est d'autant plus difficile de briser tout ce silence autour de cette violence conjugale, c'est que, bien entendu, pour beaucoup de monde, c'est lié à la sphère privée, puisque ça se passe dans le foyer, au sein du couple. Passer la porte du logis, ce qui se passe derrière ne regarde plus personne, si ce n'est les personnes qui sont de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment un problème très, très... Je dirais presque c'est le nœud du problème, parce que au nom de cette sphère privée, on n'intervient pas. Donc, quand je dis « on », c'est les voisins du dessus ou ceux du dessous ou ceux d'à côté, mais c'est aussi les instances judiciaires, par exemple. Hein. Les policiers, bien souvent, ils arrivent parce qu'il y a eu du tapage, ils ont été ameutés par les voisins, ils débarquent, ils calment un petit peu le jeu, ils voient que ça se tasse et puis ils s'en vont. Pourquoi, au nom de quoi, finalement, une femme qui se fait tabasser par son mari chez elle serait moins bien protégée qu'une femme qui se ferait agresser dans la rue, ou que n'importe qui se fait agresser dans la rue.
Hein, mais là, il y a le problème peut-être de la plainte. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent à porter plainte.
Oui, mais au-delà de ça, hein, imaginons une scène de rue en plein jour, quelqu'un qui se fait agresser dans la rue. Immédiatement, on réagit. Pourquoi est-ce que dans le foyer, dans le logement, parce que c'est la sphère privée, on détourne le regard et on tourne le dos ? Alors que la détresse est la même et le besoin d'aide est le même.
Donc est-ce que ce serait le fait qu'on ne veut pas reconnaître les violences contre les femmes comme n'importe quelle violence ? Et je crois qu'il a fallu une intervention spéciale, entre autres dans la révision de la Déclaration universelle des droits de la personne, pour faire inscrire ce type de choses, de violences spécifiques dont sont victimes les femmes.
Oui, effectivement, disons, je ne sais pas si ça a été inscrit, mais c'était effectivement une des réflexions sur les droits de la personne. Est-ce qu'une violence publique, c'est la même chose qu'une violence privée? Est-ce qu'une violence exercée par l'État, c'est la même chose qu'une violence exercée par la domination dans la domination familiale? Et effectivement, c'est une question qui
ressort. Oui, pour moi, c'est une question centrale, finalement, parce que... Personnellement, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas pourquoi on instaurerait cette différence. Ça devrait être un des objectifs de...
Mais est-ce que ce serait, bon, alors à ce moment-là, un objectif plus institutionnel,
oui,
c'est que la police et la justice reconnaissent vraiment cette violence comme un fait social, mm-hmm, et interviennent?
Oui, moi je pense certainement.
Alors, Lucienne, tu nous as parlé d'un cas très récent. Visiblement, là, le tribunal n'a pas reconnu cette femme comme victime, n'a pas reconnu la violence qu'elle a subie. Est-ce que, en général, c'est courant au niveau de la justice de banaliser ces cas de violence? Et est-ce que, finalement, les juges baignent-ils pas dans les mêmes stéréotypes que tout un chacun?
Oui, alors il y a des études qui ont été faites à l'étranger, notamment au Canada et aux États-Unis, et qui ont montré que la violence conjugale n'est pas prise très au sérieux par les tribunaux. On s'est rendu compte qu'il y a une espèce d'effet entonnoir, c'est-à-dire si on prend tous les cas de violence, là où les femmes ont porté plainte par exemple, on se rend compte déjà qu'au bout d'un certain temps, les femmes retirent souvent elles-mêmes leurs plaintes, parce que le mari a fait pression, parce qu'elles sont seules, parce que s'engager dans la procédure judiciaire, c'est quelque chose de long, de lourd et de difficile. Donc déjà là, il y a un certain nombre de plaintes qui sont retirées. Ensuite, il y a certaines plaintes qui ne sont même pas acheminées plus loin parce qu'on estime que ça n'en vaut pas la peine. Pour les plaintes qui arrivent jusqu'à la justice, un certain nombre sont classées, faute de preuves, même un nombre assez important. Et ensuite, ces études faites aux États-Unis et au Canada ont montré que seul finalement un petit nombre des plaintes qui ont été déposées au départ font l'objet d'un jugement. Et dans ces jugements, seuls un petit nombre d'hommes sont condamnés. C'est pour ça que je parlais d'effet entonnoir. Il y a beaucoup de plaintes il y a un certain nombre de plaintes au départ, et à l'arrivée, il y a très peu d'hommes qui sont condamnés. Et là, il faut peut-être aussi dire que la justice et la police sont quand même des institutions essentiellement masculines, et que les juges et les policiers, comme d'ailleurs n'importe qui d'entre nous, ont aussi leurs préjugés par rapport aux femmes et à la violence conjugale, et que cela se reflète parfois. Et là, je vais vous citer un exemple. On m'a raconté que dans le canton de Vaud, il s'est passé la chose suivante. Une femme était convoquée par un juge suite à une plainte qu'elle avait déposée, et ce juge lui a dit que, ma foi, dans le mariage, tout n'était pas toujours rose et qu'il fallait pouvoir supporter parfois un certain nombre d'inconvénients au lieu de tout de suite partir en guerre contre son mari. Donc là, elle s'est vue faire la morale par le juge, au fond, qui lui signifiait qu'il n'était pas opportun de poursuivre sa plainte.
D'ailleurs, une des idées reçues aussi, un de ces mythes, c'est que finalement, une gifle, ce n'est pas si grave.
Exactement, oui. C'est lié à la banalisation de la violence. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, bah, finalement, une gifle... Certaines femmes elles-mêmes disent, mais je ne suis pas une femme battue, j'ai juste reçu quelques gifles de temps en temps, ce n'est pas si dramatique. Bien souvent, malheureusement, ça commence par une gifle et puis ça peut continuer beaucoup plus loin. On revient sur cette histoire d'escalade et d'échelle, la violence conjugale, cette espèce de modèle de spirale infernale. C'est d'ailleurs cette spirale qui a été reprise dans le logo de la campagne. Donc c'est une grande main qui dit halte, et puis au centre de la main, il y a cette spirale qui est dessinée.
Parce qu'on dit aussi souvent, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, qu'effectivement, si une femme arrive à dire non très vite, et effectivement, dire cette violence, je ne l'accepte pas, ça s'arrête. Et qu'en fait, elle est en quelque sorte aussi responsable de cette spirale.
Oui, bon, ce qu'il faut dire, c'est vrai, je crois qu'un des premiers messages à faire passer dans cette campagne, c'est qu'il faut tout de suite réagir. Il ne faut pas se dire, non, c'est pas grand-chose, il s'est un peu oublié, je vais lui pardonner très vite. Non, il faut, et je crois que c'est très important, que la femme manifeste que ce n'est pas normal, qu'il la frappe, et qu'elle n'acceptera pas que ça recommence. Alors, Viviane, tu posais la question de l'efficacité. Là, tout dépend. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, si très vite la femme sait mettre le haut là, ça peut s'arrêter. Mais c'est vrai aussi que parfois, l'homme poursuit malgré le haut-là de la femme. Et là, il y a aussi cette escalade de la violence. Et dans ces cas-là, la seule solution alors, à moins qu'il accepte de se faire traiter, que l'homme accepte de se faire traiter, c'est de couper, parce que ça ne pourra aller que de pire en pire.
Alors peut-être nous pourrions aborder maintenant des expériences qui ont enrichi votre réflexion ou de celle de toutes les femmes à propos de cette violence. Quelle tentative justement de résoudre cette question ou d'essayer de trouver une solution possible. Entre autres, que dire, que suggérer aux femmes victimes de violence quand elles viennent demander conseil, quand elles se présentent dans des foyers d'accueil pour femmes battues, qu'exiger par exemple de la police et de la justice, puisqu'on parlait tout à l'heure peut-être que la campagne peut avoir des effets sur les lois. Et je crois que dans ce sens-là, il y a un certain nombre d'expériences aux États-Unis qui ont inspiré votre campagne. Alors, on va peut-être aborder ça tout de suite. Après avoir entendu Oumou Sangaré évoquer la peur du mariage pour certaines jeunes femmes africaines.
Ma ou yo na ou ma ou de ou nege fi wola, ou so dame.
Sangaré dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à nous appeler au 059, si vous appelez depuis Genève, 4 50 40 51 41. Je répète, 059 depuis la Suisse voisine, 4 50 40 51 41. Alors, Ivana, que dire aux femmes ? Parce que malgré tous les objectifs de votre campagne, de cette campagne nationale menée contre les violences conjugales, dont sont victimes en immense majorité les femmes, nous y reviendrons dans un petit moment, il y a un des objectifs, c'est bien évidemment, avant toute chose, je suppose, d'informer les femmes victimes de violences et de l'aide, des aides qui existent pour les aider à affronter cette question-là.
Bien sûr, et dans cet objectif, justement, une ligne... 157 000, très facile à retenir. Donc c'est un numéro qui est à disposition de qui veut bien appeler. C'est un numéro national qui est à disposition soit des femmes victimes de violences, soit des gens qui se posent des questions et qui ont besoin d'aide. Du 6 mai, donc à partir d'hier jusqu'au 6 juillet, cette ligne sera en service. Donc c'est un numéro qui est facile à retenir, qui sera affiché un peu partout en ville de Genève. Et qui est à votre disposition. Maintenant, que dire à ces femmes ? Moi, ce que je dirais, la première chose, c'est de parler de ce qui leur arrive, de ne pas rester murées dans leur silence. C'est l'objectif premier de cette campagne, on en parle pour qu'elles en parlent, justement. On peut dire que l'objectif a déjà été atteint, puisque rien que ce matin, une femme a téléphoné en disant « Votre campagne tombe à pic, c'est exactement ce qu'il me fallait maintenant ». Et certainement qu'elle n'est pas la seule. Le fait qu'elle nous ait appelés, c'est déjà... l'objectif est atteint pour nous. Donc, c'est d'en parler autour de soi, à qui se sent disposé à entendre.
Parce que justement, tu disais avant, on a voulu savoir comment les femmes vivaient ça, dans la culpabilité, dans la honte, dans l'humiliation. Il en ressort quoi ? Que les femmes se sentent justement humiliées, qu'elles n'osent pas en parler, qu'elles n'osent pas, qu'elles vivent ça dans leur privé ?
Mais oui, c'est ça le problème. Comment sortir d'une spirale infernale sans communiquer ce qu'on vit ?
Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que les femmes ont dans notre société, au sein de la famille, une fonction qui est de faire que tout marche bien, au fond, d'assurer une espèce d'équilibre, d'harmonie familiale. Et si il y a de la violence, elles ont le sentiment d'avoir échoué dans cette mission. Donc elles s'attribuent une part de la responsabilité en disant « je ne fais pas les choses assez bien puisque mon mari me frappe » et souvent ils ne se gênent pas de leur dire « si je te frappe, c'est parce que tu ne sais pas faire à manger, parce que ci, parce que cela ». Donc, elles développent souvent une forme de culpabilité. Elles se disent, c'est de ma faute, au fond, c'est vrai, la femme, la fée du foyer, hein, vous connaissez le stéréotype. Donc, si dans ce foyer, il n'y a pas d'harmonie, c'est de ma faute. Et comme elle se sent coupable, elle aura de la peine à en parler. Donc, une des choses que je voudrais vraiment dire à toutes les femmes qui peuvent être dans cette situation, c'est, ce n'est pas de votre faute s'il vous frappe. Et la violence n'est jamais justifiée. Quoi que vous fassiez, la violence n'est pas justifiée. Ça, c'est la première chose. Donc, n'ayez pas peur d'en parler. Il n'y a pas de honte. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Il y a de nombreuses autres femmes en Suisse et dans le monde. Et il faut maintenant que les femmes acceptent de parler et de sortir de leur silence pour dénoncer ce phénomène.
C'est ça. Pour elles, c'est un moyen de dire enfin non. Non, j'accepte plus. Voilà. Mais je le dis.
Je le dis, c'est un premier pas pour essayer de briser.
C'est un pas énorme.
Cette spirale.
Il y a des femmes qui ont mis des années avant de réussir à faire ce pas. C'est énorme. Ça mérite bien une campagne nationale.
Lucienne, juste avant, tu parlais, tu disais, on pourrait continuer, la vie de couple peut continuer si l'homme accepte de se faire traiter. Alors, traiter, ça renvoie à maladie. Est-ce que ça voudrait dire que pour toi, la violence, l'homme violent est un homme malade ?
Non, alors absolument pas. Peut-être que le mot traiter n'était effectivement pas bien choisi. Pas du tout. Pour moi, l'homme violent n'est pas un homme malade. C'est un homme qui veut imposer sa domination. Au fond, c'est un homme qui en est encore à une vision archaïque et dépassée des rapports de sexe. Parce que c'est vrai qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, l'homme était encore le chef de la famille, je vous rappelle. Et il y avait des lois encore au 19e siècle dans les pays anglo-saxons qui autorisaient l'homme à corriger sa femme sous certaines conditions. Donc pour moi, l'homme violent, c'est un homme qui en reste à un schéma tout à fait dépassé des relations de couple et qui croit qu'il doit dominer, qu'il doit avoir la primauté dans le couple. Quand je disais traiter, non, je voulais dire en fait qu'il accepte au fond de se remettre en question et de faire un travail sur lui-même.
C'est-à-dire que bien souvent, il n'a pas conscience de cette violence.
Pour lui, c'est aussi normal.
Ben, c'est ce qu'on entend quand on écoute les responsables de centres pour hommes. Je pense notamment à Daniel Welserlang qui va venir s'exprimer à Genève prochainement. Et dans un des reportages que j'ai vus, les hommes qui témoignent ne reconnaissent pas du tout leur violence. Pour eux, c'est simplement une forme de réponse à une agression. Mmh. Et ils disent, mais bon sang, moi je lui avais dit que mes pattes, je les aime bien salées. Et puis, elle le savait très bien. Donc, elle l'a cherché. Et puis, c'est tout, quoi. C'est elle qui m'a agressée. Bon, de là à comprendre que fracasser un crâne contre un mur pour une histoire de pâte peu salée ou trop salée, c'est quelque chose qui ne va pas, puis que ça ne se fait pas, et puis qu'il faut trouver d'autres réponses, qu'on peut discuter, que c'est possible de discuter, de dialoguer, de communiquer autrement. Ça, c'est tout un travail qui de longue haleine. Bien souvent, c'est les hommes se mettent ensemble, donc c'est des centres, des groupes de discussion d'hommes violents qui tous ont un point commun, c'est qu'ils estiment qu'ils ne sont pas violents et qui, peu à peu, vont partir à la découverte de leur violence.
Donc finalement, ce numéro de téléphone, le 157-0000, servirait aussi aux hommes éventuellement pour eux aussi finalement casser cette spirale et commencer à parler de leur propre violence.
Ah, ce serait magnifique, ouais, c'est magnifique, c'est des hommes téléphones. Ouais.
Alors, un des conseils, est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux femmes, puisque tu as dit avant que souvent c'est une question d'autonomie, de manque d'autonomie, de prendre plus d'autonomie dans le couple par exemple, entre autres, d'aller travailler. Est-ce que ce serait un bon conseil ?
Oui, moi je crois que tout ce qui accroît l'autonomie de la femme, tout ce qui lui donne du pouvoir, ce qui lui donne de la force pour s'opposer aux abus qu'on peut faire contre elle, est une bonne chose.
Mais par exemple, est-ce que tu as pu voir que c'était dans des familles où la femme, par exemple, ne travaillait pas, était femme au foyer ? Est-ce que ce sont des familles plus à risque, entre guillemets, par rapport à la violence ?
Non, alors de ce point de vue-là, notre enquête a montré qu'il n'y avait pas de différence dans les taux de femme violentée, que la femme reste à la maison ou qu'elle travaille, par exemple, à l'extérieur. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ou aussi au niveau des ressources qu'elle possède. On s'est rendu compte que même une femme qui a un niveau d'études élevé peut aussi faire l'objet de violences. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle se trouve à ce moment-là dans un processus de victimisation. C'est-à-dire que l'homme, même si elle a des capitaux importants, que l'homme va la mettre dans une position d'infériorité et qu'elle n'arrivera pas à sortir de cette position d'infériorité.
Donc c'est bien toujours ce nœud de la domination entre hommes et femmes qui est vraiment au cœur du problème.